France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Lolo Ferrari, la chute de l'icône de silicone. Une triste histoire, une histoire sombre même. Lolo Ferrari, un pseudonyme qui fleure bon la fin des années 90, qui rappelle une chevelure blond platine, un visage remodelé par la chirurgie et surtout un tour de poitrine hors norme, le plus gros d'Europe. Un 130F gagné à grand renfort de bistouri. Entre 1995 et 2000, cette vedette, mi-actrice de films X, mi-chanteuse, genre hybride, enchaîne des apparitions sur les plateaux TV. Lolo fascine. Mais sous cette carapace se cache Ève Valois, de son vrai nom. Une jeune femme vulnérable, exploitée, exhibée comme une bête de foire. Sous le tissu rose de ses tenues extravagantes se dissimulent des bleus, signe de violence conjugale. Ses éclats de rire en interview couvrent en réalité une addiction sévère aux médicaments et à un homme, le dénommé Éric Vigne. Le 5 mars 2000, le corps sans vie de Lolo Ferrari est découvert dans sa maison de Péménade, près de Grasse. La bimbo serait morte d'une trop forte dose de cachet. Très vite, le mari et agent de Lolo Ferrari, Éric Vigne, donc, devient le suspect numéro 1. C'est lui qui a imaginé la poitrine de sa femme, lui qui s'occupe de ses contrats, lui qui tient les finances, lui qui a créé sa créature. Autant de zones d'ombre qui planent sur la mort de Lolo Ferrari, une femme sous emprise, une de plus. Notre invité aujourd'hui, Yann Bouchez, journaliste au Monde, auteur d'une enquête sur notre personnage pour les pages de M le magazine. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Été 1996. Dans sa loge, face au miroir, la blonde replace difficilement sur son immense poitrine la robe bustier à paillettes. Dernière retouche, un peu de rouge sur ses lèvres boostées au silicone, un dernier coup de laque sur sa perruque peroxydée. Ève Valois l'habitude. Voilà presque un an que cette vedette de 33 ans, plus connue sous le nom de Lolo Ferrari, écume les discothèques de l'Hexagone. Toujours devant la glace, elle hausse ses sourcils dessinés au crayon. Elle lance un regard vers son mari et manager, Éric Vigne, pour lui poser son éternelle question. « Je suis belle ?» Il acquiesce, comme d'habitude. Et la voilà qui gobe les quelques cachets qu'il lui tend. Chancelante, Ève Valois quitte les coulisses, perchée sur ses talons de 12 cm, les hurlements du public se rapprochent. Comme chaque soir, sur scène, elle chante son tube, Airbag Génération. Comme chaque soir, elle finit par un striptease qui dévoile son 130F. Comme chaque soir, en culotte, elle offrira ses seins gonflés à la foule qui se pressera pour les caresser. Et comme chaque soir, chaque homme a son mot à dire sur la poupée gonflable vivante.
Fan apeuré ou médusé, Lolo Ferrari intrigue et séduit.
J'aimerais bien avoir une photo dédicacée d'elle, quoi. Car ça ferait très plaisir aux collègues de l'armée, quoi.
Vraiment, je me sens pas à la hauteur d'aller coucher avec elle. Je me sens pas à la hauteur. Moi, je sais pas de le dire, j'ai dit en face, hein, je me sens pas à la hauteur. Et je suis pas le seul. Tout le monde va dire oui, il se sent à la hauteur. Mais si elle lui dit en face à face, c'est pas vrai. Il se sentira pas à la hauteur.
Dans les coulisses, son mari et agent Éric Vigne veille sur sa créature. Il la surveille surtout. C'est grâce à lui, ou à cause de lui, qu'Ève est devenue Lolo. Mais sous cette silhouette siliconée qu'il a modelée, qui est vraiment la bimbo à la poitrine monstrueuse? Revenons 30 ans en arrière. Ève Valois naît le 9 février 1963. elle est la deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Mère prof de tennis, père ingénieur. Les Valois s'installent dans la très chic région de la Boleskoblac, en Loire-Atlantique. Une famille aisée où les gamins manquent d'amour. Chez ces gens-là, on ne s'aime pas, on compte. Et Ève en souffre. La gamine a des rêves de gloire et des paillettes plein la tête. À 15 ans, elle est déjà une cliente habituée des clubs du coin. 1m63, des jambes fines et un carré blond platine. Tous les regards doivent être braqués sur elle. Les études, elle s'en contrefiche. Elle bosse dans des discothèques, ici et là. Alors ses parents aimeraient la caser. Et ça tombe bien. Car en 1986, la sonnerie du téléphone retentit chez les Valois. Un homme, Éric Vigne, raconte vouloir rencontrer Ève. Il a passé quelque temps en prison pour une obscure affaire de drogue. Il a 15 ans de plus que la jeune femme, il a déjà été marié et un enfant d'un précédent lit. Il insiste. Il aurait entendu parler de l'oiseau de nuit de la Baule par d'anciens camarades. Ça vous paraît fumeux ? Nous aussi, un peu. Mais c'est comme ça qu'Éric Vigne présente la chose aux Valois. Et ça fonctionne. Il rencontre la famille, Ève tombe éperdument amoureuse, il lui promet la gloire, il va s'occuper de sa carrière à temps plein. Il demande 300 000 francs à ses futurs beaux-parents pour monter une société, ceux-ci acceptent. En novembre 88, Ève Valois devient Ève Vigne. Un mariage à la va-vite, 8 mois après leur première rencontre, Ève est red-dingue de son Éric, comme le montrent les nombreux mots passionnés qu'elle lui écrit.
Petit mot du soir. Tu sais, je t'aime, mon Éric Vigne. Je t'aime pour la vie, pour l'éternité. Tu es merveilleusement beau. Tu fais l'amour comme un dieu. Je te regarde avec des yeux si émerveillés et si grands. Ta femme, Ève Vigne.
Le couple s'installe à l'autre bout de la France, dans la région de Grasse, aux abords de la petite ville de Pémélade. Éric et Ève s'offrent un petit pavillon grâce à une donation des parents. Ève rêve de devenir une pin-up, de déambuler sur des tapis rouges. Son modèle, l'actrice Jane Mansfield, sex-symbole de l'Amérique des années 50, cheveux peroxydés, poitrine opulente, tiens donc. Et comme il faut bien commencer quelque part, se lancer, elle pose pour des photos de charme. Mais quelque chose cloche. Son nez, sa bouche ne seraient pas assez photogéniques selon les professionnels. Ève demande alors à son mari de dessiner son nouveau visage. Grâce à un papier calque et un crayon, sur les portraits de sa femme, Vigne griffonne sa nouvelle Ève. Il agrandit sa bouche, il affine son nez. Il sait ce qu'il veut. Éric aime lui-même se travestir. Le milieu des drag queens le fascine. Il s'en inspire pour sculpter sa poupée vivante. Ève passe alors sur le billard. Les opérations de chirurgie s'enchaînent. Accro, exploité ou les deux, elle ne s'arrête plus. Les pommettes sont rehaussées, le front est modifié, 17 opérations du visage. Mais ce n'est jamais assez.
La première fois, j'ai trouvé ça pas assez gros. J'étais très déçue. Je suis allée revoir un chirurgien, un autre. Il m'a fait plus gros, j'étais encore déçue. J'étais déçue 5 fois comme ça. Et la dernière fois, à mon 130, là, j'ai pas été déçue. Au début, ça m'a fait très peur, parce que c'était vraiment très très gros. Hein. En plus, il y avait les hématomes, donc sous les bandages, c'était vraiment énorme. Mais c'était vraiment des seins qui tenaient tout droit, comme ça, c'était carrément des ballons. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, quand même.
Les implants silicone de ses seins sont remplacés par des poches de sérum physiologique. Du décollé au décolleté, le moule en métal de cette poitrine monumentale est fabriqué par un ingénieur qui a travaillé sur les tableaux de bord des Boeing 747. Et qui a dessiné les plans ? Eh bien, Éric Vigne, lui-même, avec la complicité du docteur Roubaud, le chirurgien attitré d'Ève. C'est ainsi qu'à 33 ans, elle devient la femme au plus gros sein d'Europe, chacun pesant 3 kilos. Mais comment expliquer un tel acharnement sur son propre corps ? Ève Vigne semble souffrir de dysmorphophobie, un trouble mental qui se caractérise par une préoccupation excessive de ce que le patient perçoit, lui, et à tort, comme un défaut physique. D'ailleurs, elle se déteste tellement, Ève, qu'elle transforme sa silhouette pour ne plus se ressembler. Et puis, pour chasser le naturel, quoi de mieux que de ressembler à une poupée en plastique ?
J'ai peur des choses naturelles. En tout cas, sur moi, sur mon corps, il faut que je sois fausse. Bon, si je mets autant de bijoux, parce que j'adore les bijoux, mais c'est aussi pour cacher mes membres. Parce que j'ai peur de mes membres. J'ai peur de mon corps, de la chair humaine, du corps. Je voudrais pas avoir du sang dans le corps. Je voudrais être... une caricature, une poupée Barbie.
Une poupée Barbie, oui, j'allais dire.
Ouais. Pas une personne.
Eve commence à se produire dans des petits cabarets et se lance dans le striptease. Eric, lui, se consacre pleinement à la carrière de sa femme. Mais puisqu'elle travaille pour deux, il faut gagner plus. Alors, elle aurait commencé à se prostituer. Oh, ne faut pas le trottoir, non. Elle rejoint des clients à l'hôtel, c'est plus chic. Très vite, la police prend connaissance du business des couples. Eric Vigne sera condamné en 97 par le tribunal de grâce à 6 mois de prison avec sursis pour proxénétisme. En parallèle, les shootings photos érotiques se poursuivent. Mais près de la piscine, dans le jardin du petit pavillon de Péménade, ça grogne. Les voisins du couple n'en peuvent plus des activités de l'impresario et de sa femme. Le vis-à-vis sur Eve Valois, nu tous les jours, ça n'est plus possible. Ça risquerait de choquer les mômes. D'autant qu'aux images s'ajoute désormais le son. Parce que Eve Valois commence le porno. Oh, quelques films. 3, selon elle. Pour mettre du beurre dans les épinards. Elle peinera d'ailleurs à se défaire de cette image de porn star, comme elle l'explique ici en interview.
Donc j'ai fait 3 films X, et après j'ai arrêté complètement. Et cette image-là me poursuit tout le temps, et j'aime pas du tout.
L'expérience, c'était quand même quelque chose d'intéressant, ou c'était vraiment pas agréable?
Non, pas du tout agréable. Bah non, parce que c'est vraiment pour le métier, quoi. Donc non, j'aime pas, moi j'aime pas.
C'est au mi-temps des années 90 qu'Eve Valois devient Lolo Ferrari. Ferrari, c'est le nom de son grand-père. Mais a-t-on besoin d'expliquer le choix du terme Lolo ? En mai 95, paré de son nom de scène, Lolo et son 130F se rend au sein des saints du cinéma mondial, le Festival de Cannes. Peut-être qu'avec sa plastique hors norme, précisément, elle se fera repérer par un réalisateur. Sur la croisette, bande noire dans les cheveux, façon Brigitte Bardot, en pantalon rose bonbon, elle fait glisser sur ses hanches le top blanc qui l'engonce pour dévoiler son immense poitrine aux reporters venus du monde entier. La renommée de Lolo Ferrari traverse en effet les frontières. Et en 1996, elle passe du film X au film d'auteur. Et c'est ainsi que le réalisateur belge Jean Bucquois la met à l'affiche de son long métrage « Camping Cosmos ». Dans cette production qui dresse toute une galerie de portraits de la société belge, Lolo interprète Madame Vente de Pute. Mais oui, en l'occurrence, la femme du propriétaire d'un camping.
Il ne me fait jamais jouir, il est incapable et je dois aller voir d'autres hommes. Je suis très malheureuse et même les autres hommes n'arrivent pas à me faire jouir parce qu'il m'a complètement foutu en l'air.
C'est important pour vous la fonction de l'orgasme ?
Ah oui, c'est très très important d'abord chez une femme et pour moi c'est très important.
Et vous pensez qu'un jour vous alliez y arriver ?
Ouais, j'espère.
Merci beaucoup Madame Van de Putte et à très bientôt, j'espère aussi.
Lolo fait parler et ça lui plaît. Y compris en mal d'ailleurs. En mai 96, le constructeur de voitures de luxe Ferrari demande à l'Institut National de la Propriété Industrielle d'examiner l'utilisation du nom Ferrari par Lolo. Parce qu'être associé à la Bimbo ternirait son image de marque. Cette guéguerre insolite entre un géant de la voiture et la femme au gros sein fait les titres des journaux, bien sûr. En interview, Lolo Ferrari fait de la provoque, se revendique même plutôt Porsche. Au fil de ses apparitions médiatiques, elle se construit un personnage. Elle raconte une enfance malheureuse, invente une mère psychiatre pour enfants. Elle se dit cœur à prendre, alors qu'en coulisses, comme d'habitude, son mari la scrute. Elle enchante aussi à l'étranger. Elle fait plusieurs apparitions en Allemagne. Aux côtés du couturier Jean-Paul Gaultier et de l'animateur Antoine Decaune, elle présente même l'émission musicale Eurotrash, diffusée sur la chaîne britannique Channel 4. Bref, en 96, c'est l'année Lolo. Alors, surfant sur la vague, elle se lance dans la musique avec son single Airbag Generation. Le disque ne se vendra qu'à 3000 exemplaires. Ainsi, les projets fleurissent, plus ou moins bancals. Mais qu'importe, elle est dans la lumière. Lolo Ferrari vit son rêve. Et elle le raconte en août 96 dans l'émission estivale 40 degrés à l'ombre, sorte de tournée des plages de France avec son animateur Thierry Beccaro.
J'ai les producteurs de Pamela Anderson qui sont venus me voir spécialement à Cannes et qui m'ont demandé de faire 40 épisodes de Barbarella. Alors évidemment, je reste modeste, c'est toujours un projet, mais ils ont l'air très intéressés.
Je ne sais pas pourquoi.
Ah, je sais pas.
Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, ils ont l'air intéressés.
Alors attends, Thierry, c'est pas fini. Il y a aussi beaucoup, évidemment avec ma chanson, des galas dans toute l'Europe entière, parce que je ne suis pas connue qu'en France, mais dans toute l'Europe, jusqu'en Pologne.
C'est vrai, si je puis me permettre, tu as des atouts qui peuvent franchir les frontières.
Voilà, exactement.
En coulisses, Eric Vigne fait les comptes et encaisse les francs gagnés sur le corps hors norme de son épouse. Mais une fois la ferveur de la plus grosse poitrine d'Europe passée, très vite les contrats s'épuisent. La lolomania se dissout. Dans le monde entier, d'autres femmes passent sur le billard pour l'imiter et ringardisent l'idole en silicone. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Lolo Ferrari.
France Inter. Affaires Sensibles.
Malgré les plateaux télé, la tournée des boîtes de nuit, la plus grande poitrine d'Europe est de moins en moins sollicitée. Alors, Eric Vigne cherche avec acharnement d'autres projets pour sa chose. Tiens. En pleine Monday Girls Band, pourquoi ne pas former un groupe musical ? En juin 99, il recrute deux jeunes femmes pour créer avec Eve les Silicon Girls. Une brune et une rousse. Elles s'appellent Audrey et Karine. Elles n'ont même pas 20 ans et doivent se plier aux impératifs d'un Eric Vigne salace. Pour pouvoir monter sur scène avec Lolo Ferrari, elles doivent faire du 105 minimum côté tour de poitrine. Alors le manager leur prépare un contrat à signer, retrouvé dans le dossier judiciaire.
Objet du contrat. Eric Vigne veut créer une formation musicale de jeunes femmes sachant danser, chanter et jouer la comédie appelée Girls Band. Mais dont les activités artistiques seront sans limite. Exemple, chant, musique, télévision, photos, CD, CD-ROM, Internet, Minitel, produits dérivés. Article 5. Aspect physique du groupe. La caractéristique principale du groupe est la forte poitrine de chaque femme. La poitrine de chaque membre du groupe fera au minimum 95 cm de tour, avec une profondeur minimale de bonnet de soutien-gorge de caractéristiques des normes françaises. Article 6. Aspect moral du groupe, philosophie du groupe, les rapports sexuels et amoureux sont interdits dans le travail.
Les deux Silicone Girls se rendent chez les chirurgiens de Lolo Ferrari pour se faire opérer, mais en vain. Le Girls Band est un échec. Un autre. Dans le pavillon de Pemenade, les enveloppes de la banque s'entassent. Le couple Vigne s'endette. Alors, Eric demande aux parents d'Ève, les Valois, de se porter caution et garant hypothécaire de leur prêt bancaire. Ils s'endettent, eux aussi, pour leur fille, et finissent par quitter leur maison pour vivre en caravane. Ève enchaîne les épisodes dépressifs. Pour qu'elle puisse se supporter, Eric Vigne lui sert de pharmacie. Plusieurs fois par jour, il lui donne ses médicaments. Un cocktail explosif entre anxiolytiques, antidouleurs et antidépresseurs. Jusqu'à 18 cachets quotidiens. Victime de troubles alimentaires, elle perd plus de 13 kilos et se nourrit chaque jour d'une dizaine de tasses de café, de plusieurs litres de Coca Light et d'environ 18 sachets. La poupée siliconée sombre. Elle ne rapporte plus rien à son agent et mari qui gère ses finances et qui lui octroie 100 francs par jour. Pas un de plus. En détresse, elle déambule dans les rues de Pemenade. Tous les jours, elle s'installe au comptoir du bar des Gémeaux pendant des heures et s'épanche sur ses rêves perdus. Seul moment suspendu, les rendez-vous en catimini avec ses amants, comme cet Antoine, un policier de Monaco qui lui promet monts et merveilles. Leurs rencontres clandestines ont lieu à l'hôtel de la Poste. Ève connaît bien les propriétaires qui deviennent même ses amis. Mais malgré l'idylle, la chute inexorable de Lolo Ferrari s'achève le 5 mars 2000.
Les informations avec Philippe Habitboul.
La disparition de l'actrice Lolo Ferrari, elle est morte cet après-midi dans sa maison près de Grasse. On ignore les circonstances du décès de Lolo Ferrari. De son vrai nom, Ève Valois, Lolo Ferrari s'était rendue célèbre par les mensurations spectaculaires de son tour de poitrine.
Il est 14h55, le 5 mars, quand Eric Vigne téléphone à la police. Il vient de découvrir le corps sans vie de son épouse dans le lit conjugal. Il appelle dans la foulée les pompiers, comme les forces de l'ordre le lui ont conseillé. Une dizaine de minutes plus tard, pompiers et policiers pénètrent dans le pavillon de Pemenade. Le logement est enseveli sous la crasse et sous la poussière. Des vêtements sur le sol, partout. Sur le mur de salon, au feutre noir, un mot d'amour signé Lolo, Eric, I love you. Dans la chambre au papier peint rose du premier étage, des paires de chaussures sans tasse, des peluches aussi. Là, également, la crasse, partout. Et sur le mur, au feutre noir, un autre message, d'une écriture différente que celui du salon. Si pas rentré à 8h, divorce. Sur le lit, Ève Valois gît sous un masque épais de maquillage. Elle porte une nuisette rose, ses faux ongles sont mal collés et des hématomes colorent ses jambes fines. Il est 16h15 quand le médecin légiste procède à sa première expertise. Le décès serait survenu plus de 6 heures avant l'arrivée des secours, donc avant 10h15. Ce n'est pas la première fois que la police est appelée chemin des morts et des adrets. Ève Valois a tenté plusieurs fois de se suicider. Alors, le médecin conclut une surdose médicamenteuse. Un suicide sans doute. Le corps d'Ève a lâché. À 17h50, son mari, Eric Vigne, est interrogé dans les locaux de la gendarmerie de Grasse, extrait de son procès-verbal.
Hier soir, Eva est rentrée vers 21h. Elle m'a dit qu'elle était allée dans un café à Pemenade boire un coup, comme elle le faisait souvent. Puis elle est allée se coucher dans notre chambre. Elle avait attrapé froid et toussait beaucoup. Comme elle était très fatiguée, je ne me suis pas allé me coucher avec elle. J'ai dormi sur le canapé au rez-de-chaussée. Vers 23h, 23h20, Ève m'a appelé car elle n'arrivait pas à dormir. Je suis allé lui rendre visite et je l'ai rassurée. Puis je suis redescendu me coucher. Vers 8h ce matin, je suis allé de nouveau rendre visite à mon épouse. Elle semblait dormir. Vers 14h, je me suis réveillé et comme je ne voyais pas Ève, je suis allé dans la chambre. Je me suis précipité sur elle et j'ai constaté qu'elle était froide et qu'elle ne bougeait plus. J'ai tout de suite appelé la police sur le 17.
Ce que le mari ne raconte pas aux forces de police, c'est que son couple battait de l'aile. Eric et Eve faisaient chambre à part. Et depuis des mois, là où il assure aux policiers qu'il a laissé sa femme dormir seule pour la première fois en 13 ans. Mais ce que les amis racontent, c'est une femme victime de violences conjugales. Des années aussi que ses parents s'inquiétaient de l'emprise qu'Eric exerçait sur elle. Un mari violent, manipulateur, au discours flou. Les horaires que le veuf indique à la police ne collent pas. Alors, les interrogations se multiplient. Comment expliquer en effet qu'Eve a été retrouvée le visage tartiné de blush et de mascara alors qu'elle se démaquillait toujours avant de dormir ? Pourquoi les quantités de médicaments retrouvés dans son sang sont hautement supérieures à ce qu'elle ingère normalement alors que c'est Eric qui conservait les précieux cachets ? Pourquoi n'a-t-elle pas laissé de lettres d'adieu comme lors de ses tentatives de suicide ? Et puis ce mot-là, sur le mur, « si pas rentré avant 8 heures, divorce », de quand date-t-il ? Les enquêteurs interrogent des témoins et des amis d'Eve Vigne. Le samedi 4 mars, veille du décès, c'était l'anniversaire d'Eric. Le couple devait se rendre au restaurant. Mais Eve a finalement retrouvé Antoine, son amant, le policier monégasque. Ils se sont vus quelques heures dans un club libertin, à Mougins. Mais elle s'est sentie mal et a quitté l'établissement vers 22h, avant de rentrer chez elle. Le policier témoigne aussi au commissariat de Grasse.
En fait, Eve s'est raccrochée à moi comme à une bouée, car elle était très malheureuse dans la vie avec son mari. Elle était consciente de sa dérive avec tous les médicaments qu'elle prenait. C'est lui qui lui donnait tous ces médicaments. Son mari la battait, c'est du moins ce qu'elle me disait. Mais il ne la frappait qu'au niveau des jambes, car elle était amenée fréquemment à montrer le haut. Elle entretenait avec lui une relation assez bizarre. Je dirais un mélange de crainte et d'amour.
Alors Eric Vigne change sa version des faits. Pourquoi a-t-il attendu une heure après avoir constaté la mort de sa femme pour appeler les secours ? Eh bien parce qu'il avait l'impression de pouvoir parler à l'âme d'Ève qui était encore dans la pièce. Je reprends ses mots. Eric Vigne devient tout naturellement suspect. Depuis la mort de sa femme, il envoie plusieurs courriers au procureur de Grasse et il insiste. Elle voulait être incinérée très vite pour ne pas être, suivant son expression, dévorée par les vers intérieurs. Quoi ? Peut-il faire disparaître des traces sur le corps ? Le magistrat refuse sa demande. Samedi 10 juin 2000, sous un ciel gris, les proches d'Eve Valois se pressent autour de la petite église de Péménade. Les couronnes de fleurs s'entassent. Parmi elles, une composition florale de Marc Roubaud, le chirurgien esthétique de Lolo Ferrari. Des corbillards sortent un cercueil blanc qui contient le corps d'Eve Valois. Il passera ensuite en chambre froide jusqu'à ce que la justice autorise l'incinération tant demandée par son veuf, Eric Vigne. En cette fin de matinée, le mari éploré s'accroche au bras de sa belle-mère, Catherine Valois. La mère d'Ève et son gendre paraissent soudés. Pourtant, avec son collier de perles et sa voilette, le discours qu'elle prononce devant les caméras et les micros dévoile les tensions qui se dessinent entre les proches de la défunte.
Vous l'avez tué, ma fille. Une partie, je dis pas tous. Il y a eu des gens gentils, mais... Il y a des gens méchants parce que on le sent, une bête quand elle est faible, on le sent. On le sent. Et un être humain quand il est bon, eh ben on en fait un être bête. Elle était bonne, ma fille, mais bonne, vous ne pouvez pas savoir.
Alors les Valois accusent Eric Vigne d'avoir exploité leur fille, d'avoir capitalisé sur sa détresse et sur sa vulnérabilité. D'avoir créé un désert affectif autour d'elle. Lolo Ferrari sous emprise. Et comme la poule aux œufs d'or ne rapportait plus assez, son mari, agent artistique, aurait profité de sa dépendance aux médicaments pour la laisser mourir. Et puis d'autres éléments accablent Eric Vigne. Dans les jours qui ont suivi la mort de son épouse, il a vendu à des médias des photos de la défunte dans son cercueil. Il a demandé à une journaliste 20 000 euros pour une interview, dans la perspective d'un documentaire sur son épouse. Le couple Valois porte plainte contre Eric Vigne pour abus de faiblesse. Les parents en deuil s'appuient sur certaines lettres que leur fille leur a écrites.
Maman, papa, chéri, ça recommence. Eric me fait reprendre des médicaments. J'ai peur qu'il ne me parle plus, je suis angoissée. Il dit qu'il va vendre la maison. J'ai peur de travailler. Il ne veut plus que je voie mes parents. Je voudrais mourir. Je vous aime. Votre lapin adoré. Il faut que je travaille et il ne me donne pas d'argent et je ne peux pas aller à l'hôpital. Je n'ai toujours pas d'assurance et de sécurité sociale.
La juge d'instruction du parquet de Grasse considère la mort de Lolo Ferrari comme suspecte. Fin 2001, elle demande donc une nouvelle expertise de la dépouille de l'ex-vedette de cabaret. Et là, les résultats sont à l'opposé de la première expertise. Selon les trois experts réputés, l'arrêt respiratoire pourrait être lié à une cause extérieure. Par ailleurs, les prélèvements effectués sur le corps indiquent qu'Ève Valois aurait bu du café ou du coca 2 heures avant sa mort, alors que son mari, lui, indique qu'elle ne s'était jamais levée. Le 27 février 2002, Éric Vigne est mis en examen et placé en détention à la maison d'arrêt de Grasse. Mais le créateur du personnage Lolo Ferrari ne lâche rien. Avec son avocat, maître Gilles-Jean Portejoie, il multiplie les demandes de remise en liberté. Et il empile les recours. Et ça fonctionne. Le 30 mai 2006, nouvelle expertise sur le corps d'Ève Valois. Résultat, les médicaments peuvent être l'unique cause du décès d'Ève Valois 6 ans plus tôt. Exit la non-assistance à personne en danger, la piste du suicide est privilégiée. Éric Vigne est donc libéré et même indemnisé pour ses mois de détention. Il reprend le cours de sa vie et répond à quelques interviews, comme en ce 26 février 2007 sur le plateau de Laurent Ruquier pour France 2.
Et elle me disait toujours, tu sais bébé c'est moi, bébé tu sais, j'ai connu pas mal d'hommes dans ma vie, mais je dois dire, tu es le plus merveilleux de tous, je n'ai jamais connu quelqu'un, c'est un rêve, tu as fait tout ce que j'ai voulu, effectivement j'ai fait tout ce qu'elle a voulu, tu as réussi à m'aider, à m'emmener dans le monde entier, à me faire rêver, malheureusement, je suis poursuivi par les angoisses d'enfance, par tous mes problèmes d'enfance, et je souffre toujours.
La mort de Lolo Ferrari, une affaire classée ? Non, parce que des zones d'ombre subsistent. Qui lui a donné autant de médicaments dans la nuit du 4 mars, alors qu'elle n'y avait pas accès ? Et s'il s'agit d'un suicide, qui est responsable de son état mental et physique ? Le pavillon de Péménade a été abandonné par Éric Vigne. Il est possible maintenant de passer la porte. Alors, des curieux férus d'anecdotes morbides s'y filment et postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Sur ces images, le lit où la vedette est morte et ses draps rose satin n'a pas bougé. Les vêtements en dentelle de la bimbo sont toujours suspendus dans le placard. Et bien ce mot m'inscrit sur le mur, lui aussi, intact, toujours ce mot, si pas entré avant 8 heures, divorce. Aujourd'hui, le corps de Lolo Ferrari repose au cimetière des Roumiguères à Grasse. Celle qui rêvait de célébrité n'a le droit qu'à une dalle, sans nom ni date. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Lolo Ferrari, dont nous parlons avec notre invité Yann Bouchès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, approchez-vous du micro, un petit peu. Vous êtes journaliste au Monde et vous avez signé en 2020 un article sur Lolo Ferrari, 20 ans après sa mort, c'était pour M, le magazine. Bah d'abord, pourquoi avez-vous décidé de travailler sur ce sujet-là, au-delà de l'anniversaire ?
Alors, parce que je faisais à l'époque partie d'une task force, une douzaine de journalistes volontaires du Monde qui travaillaient sur les féminicides. Pendant un an, on avait décidé de décrypter le phénomène, de raconter cette centaine de femmes ou plus qui chaque année sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et je discutais avec un parquetier. En fait, le terme n'allait pas de soi. Et ce magistrat, il trouvait que c'était un non-sens juridique que de parler de féminicide.
Il n'était pas le seul à l'époque, hein,
il n'était pas le seul, loin de là. Et en fait, il me dit au détour d'une conversation, mais si vous vous intéressez aux féminicides, en tout cas aux femmes victimes de leur mari, pourquoi est-ce que vous vous intéressez pas à Lolo Ferrari. Et là, je dois dire que de Lolo Ferrari, je connaissais que les grandes lignes, c'est-à-dire la Bimbo, gros sein. Et donc, je lui demande de m'expliquer. Et il m'explique qu'en fait, jeune magistrat, en début de carrière, il a travaillé sur cette affaire. Et il en a gardé un goût amer d'inachevé, parce que il a l'impression que la justice est pas passée, et parce que il me dit cette phrase. En fait, cette femme n'a pas été prise au sérieux pendant sa vie, et sa mort n'a pas non plus été prise au sérieux. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, bah, est-ce que je vais gratter un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière le Ferrari.
Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez que sa mort est un féminicide?
Alors on est un peu sur un terrain glissant, c'est-à-dire que Éric Vigne, il n'a pas été condamné, il est innocent aux yeux de la justice. Après, ce qu'on peut dire, c'est que
parce que vous m'avez dit, j'ai décidé d'enquêter sur les féminicides. Donc, est-ce qu'après examen de ce dossier-là, mais en tant que journaliste, vous considérez toujours que c'est un féminicide? Alors on peut pas, parce qu'il n'a pas été condamné, il est donc, et on le rappelle, innocent. Mais moralement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un féminicide?
Oui, parce que pour moi, il fait aucun doute qu'il a exploité sa femme à son profit. Vous l'avez très bien raconté.
Oui, ça, ce sont les faits, effectivement.
Même si sa femme s'est suicidée, en fait, on peut s'interroger sur le rôle qu'a pu jouer Éric Vigne dans ce processus. Je pense qu'il est évident que si la mort de Lolo Ferrari se produisait aujourd'hui, planerait l'ombre du féminicide et on n'aurait pas du tout la même façon de raconter les choses. Et c'est un ancien avocat de Éric Vigne, parce que en fait Éric Vigne s'est fâché avec ses premiers avocats, Serge et Michel Poteau, et un de ses deux avocats dit dans l'article que j'ai écrit, si il ne l'a pas tué, il l'a massacré. Et en fait, c'est une formule assez dure de la part d'un avocat pour son ex-client, mais je trouve que ça peut résumer les choses.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette dalle sans date ni nom? Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que Éric Vigne n'a jamais fait incinérer sa femme. Ah oui. Il a demandé ça pendant toute l'enquête et il ne l'a jamais fait. Donc, c'est un enfeu. Alors les enfeux, les connaisseurs des cimetières appellent ça les HLM des cimetières, parce que ça donne l'image d'une barre d'immeuble, et puis aussi parce que c'est moins cher que une tombe classique. Et en fait, donc Lolo Ferrari, Eve Vigne, est là dans un enfeu, et en fait il y a pas son nom. C'est même très difficile de trouver sa tombe, enfin cet enfeu. À l'époque, je l'ai trouvé grâce à un internaute qui était passionné de célébrités enterrées, et donc qui lui-même avait trouvé parmi les 9 cimetières de Grasse où elle était. Et c'est vrai qu'à Grasse, on communique beaucoup sur les tombes de Charles Pasqua ou de l'actrice Suzy Carrier, mais pas du tout sur celle de Lolo Ferrari.
Et pour cause. Alors, pour cette enquête, vous avez contacté Éric Vigne. Si oui, quel est le profil de cet homme, de ce que vous avez pu en conclure après l'avoir contacté?
Alors, oui, j'ai pu contacter Éric Vigne, je l'ai eu au téléphone. Déjà, avant de le contacter, je savais un petit peu son profil, c'est-à-dire un touche-à-tout au bord de la légalité. Il a été vendeur de voitures, vous l'avez rappelé, il a eu plein de boulot. Il a été mêlé à une affaire de trafic de drogue dans les années 80. Alors, qui est Éric Vigne? En fait, dans PMNAD, c'est sûr qu'il passe pas inaperçu, parce que c'est un grand échalas avec des cheveux longs, qui aime se travestir en femme et se balader donc à PMNAD en femme. Donc, ça passe pas vraiment inaperçu. En termes de personnalité, il y a des expertises qui ont dit que c'était quelqu'un de manipulateur. Il y a même un expert, je cite, mais qui décrit un psychisme qui fonctionne bien dans la perversion de façon efficace et séduisante, ce qui l'en rend d'autant plus dangereux. Moi, quand je l'ai au téléphone, il y a deux choses qui me frappent. Il a une voix assez aiguë et il est très agressif. C'est-à-dire que il a visiblement toujours une haine vis-à-vis des journalistes qui traitent de salauds et de vicieux. Et on est en mars 2020, au tout début du Covid, et il comprend pas du tout qu'on puisse encore s'intéresser à sa femme. Donc, il n'arrête pas de me répéter « Vous avez le coronavirus à vous occuper, alors occupez-vous du corona. » Il me dit même d'écrire sur Kylian Mbappé. Mais en gros, il y a des sujets beaucoup plus important que sa femme. Moi, j'ai plusieurs questions à lui poser. Celle du fait qu'il n'a pas procédé à l'incinération de sa femme. Sur ce sujet, il me dit qu'il va probablement le faire un jour, mais il me dit c'est pas urgent, maintenant son corps est largement abîmé, donc ça sert pas à grand chose de le faire. Et pour moi, ce qui était aussi frappant lors de cette conversation, c'est le manque de respect que j'ai ressenti de sa part pour sa femme. Et il m'a répété plusieurs fois, tout le monde a oublié Lolo, et lui, il dit qu'il en est heureux.
Et donc, il ne se sent coupable de rien, responsable de rien. Qu'est-ce qu'il vous dit sur ce point-là? Vous avez dû lui poser la question. Est-ce que vous vous sentez directement responsable de la mort de votre femme?
Non, non, lui, il martèle depuis le début son innocence. Mmh. Il dit que sa femme n'y est pour rien, que sa femme était suicidaire. Il dit par ailleurs qu'il n'avait aucun intérêt financier à ce qu'elle meure parce qu'elle n'avait pas d'assurance vie. Mais voilà, il s'en tient à ce discours. Il l'a découvert inerte dans son lit et il explique qu'il s'est allongé à côté d'elle et qu'il a parlé avec son âme. Mais il explique qu'il ne sait pas comment sa femme s'est procuré toutes ces doses de médicaments.
On se retrouve dans 3 minutes, on écoute Justice et Tame, One Time.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire de Lolo Ferrari, dont nous parlons avec notre invité Yann Bouchès. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez enquêté sur la vie et la mort de Lolo Ferrari pour le magazine M du Monde. Vous savez, moi, ça me fait penser plus ou moins l'histoire de Amy Winehouse, qui, elle aussi, était sous l'emprise de son mec. C'est un véritable fléau, ces types qui mettent ces femmes sous emprise. En dehors de l'enquête judiciaire et de ce fléau de l'emprise, il y a aussi la descente aux enfers de cette bimbo devenue bête de foire. Est-ce que les médias ont une part de responsabilité ou sont-ils simplement l'écho d'un phénomène qu'ils n'ont pas créé, hein? Ils n'ont pas créé le phénomène Lolo Ferrari, les médias, c'est Vigne qui l'a créé.
Non, bien sûr. Et juste avant de répondre sur cette question, le terme emprise, c'est vrai, à l'époque, n'est pas du tout utilisé dans les années 2000, mais en tout cas, c'est un terme qui convient parfaitement pour décrire la relation entre Éric Vigne et sa femme. Alors, est-ce que les médias ont une part de responsabilité Il faut juste rappeler au départ que les médias sont pas les premiers responsables, je pense, des failles d'Ève Valois et de son mal-être qui semble assez ancien. On peut pas négliger son adolescence qui a semblé compliquée et pas seulement au niveau scolaire. Et on ne peut pas ignorer non plus les rapports compliqués qu'elle entretenait avec une partie de sa famille, avec sa mère notamment. Et je pense que Éric Vigne, il va s'engouffrer dans ça. Il va refaire ses failles.
Et avec elle-même aussi.
Avec elle-même, bien sûr. Le rapport qu'elle a à son image, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui est fragile, qui a des failles. Pour moi, en fait, Valois, Ève Vigne, elle avait 37 ans, mais dans sa tête, c'était encore une enfant. Et quand on lit ses courriers, on s'en rend compte. Elle écrivait beaucoup. Par contre, ce qui est aussi incontestable, c'est que les médias, dont dans leur ensemble, ont d'abord considéré Lolo Ferrari comme une bimbo. Dans certains articles, je l'avais noté, on parlait de Vénus hottentote des années 90 ou de bête de foire. En fait, Lolo Ferrari, elle était l'objet d'une médiatisation amusée, souvent méprisante, et les médias n'ont pas su raconter, ou si peu, la femme en souffrance qu'il y avait derrière Lolo Ferrari. Dans les journaux, on parlait toujours de Lolo Ferrari et jamais d'Ève Vigne. C'est comme si on n'avait pas envie de voir l'envers du décor, du folklore, nettement moins glamour l'image de la femme au plus gros sein d'Europe.
Donc de ce point de vue, il y a une responsabilité morale et humaine des médias, au moins de ce point de vue.
Oui.
Bon. Alors on le dit au début du récit, Éric Vigne semble avoir séduit également les parents d'Ève Valois en leur soutirant d'emblée plusieurs centaines de milliers de francs. On a parlé d'emprise sur Ève, bien sûr, mais y avait-il une emprise d'Éric Vigne sur les parents?
Alors, ça va être plus compliqué pour moi de répondre à cette question, parce que je n'ai pas pu parler avec les parents d'Ève Valois. Je ne sais même pas, en fait, vous dire si Yvette Valois, qui était la mère d'Ève Valois, est toujours en vie. Si elle est toujours en vie, elle doit être très âgée. J'ai pas réussi à les contacter. J'ai eu un frère d'Ève Valois qui, à l'époque, n'a pas souhaité parler. Et j'ai respecté ça tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter une anecdote. anecdote que j'avais pas écrit dans l'article, mais qui, 2 ans après l'article, il y a un tweetos qui m'a contacté et qui m'a dit, ben, en fait, à la suite de votre article, j'allais au cimetière des Roumiguières et de temps en temps, il habite la région, de temps en temps, j'allais me recueillir devant la dalle, devant l'enfeu. Et en fait, il a appris par le gardien du cimetière que la concession n'avait pas été payée et que le corps de Lolo Ferrari allait possiblement être mis dans une fosse commune. Et en fait, à l'époque, je lui ai donné le contact d'un frère de Eve Valois. Mmh. Et m'a-t-il dit, la situation avait été réglée.
Alors, on l'a dit dans le récit, la maison des vignes continue de fasciner, au point que des internautes, ou pas des internautes d'ailleurs, pas des personnes, s'y baladent et postent, alors pour les internautes, leurs images sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voir aussi la maison, vous y êtes rendu? Expliquez-moi.
Oui, je m'y suis rendu quand je suis allé au cimetière des Roumiguières. Évidemment, je suis allé aussi voir la maison. Il y avait notamment un voisin retraité octogénaire qui était tout content de me voir. D'autres voisins un peu moins, mais ce voisin-là m'a dit bah, venez avec moi, et on est allé dans le jardin. On n'est pas allé dans la maison, mais à travers une porte vitrée, on pouvait voir que le salon est resté dans son état, c'est-à-dire avec le canapé blanc que j'avais vu dans certains reportages. C'est complètement en l'état. Le jardin, c'est une sorte de forêt de mauvaises herbes. La piscine, c'est juste
l'eau est verte
de la vase. Voilà, ouais. L'eau est verte. Il y a encore la voiture décapotable dans le petit jardin du couple Vigne. Et il y a un mystère que j'ai pas réussi pour l'instant à éclaircir, c'est à qui appartient cette maison et pourquoi elle n'a pas été vendue. Il y a des voisins qui habitent juste à côté qui m'ont dit, mais en fait, il y a une telle végétation dans ce jardin, nous on a peur qu'éventuellement ça prenne feu un jour d'été et je sais toujours pas à qui appartient vraiment cette maison.
Et les voisins, ils en disent quoi? Ils ont essayé de se renseigner, peut-être, parce que c'est bizarre d'habiter à côté d'une maison qui n'est pas vendue, qui contient encore les meubles des anciens propriétaires dont l'une est morte, quand même.
Et qui est inhabité depuis 20 ans.
Bien sûr.
Alors j'avais tenté à l'époque de contacter, mais sans succès, la mairie de Grasse, la mairie de Pemnade, pardon, pour essayer d'avoir des renseignements. Voilà, pour l'instant, c'est un mystère que j'ai pas éclairci encore.
Alors quand on parle de la vie de Lolo Ferrari, il y a un côté viral, tout le monde s'y met. Et je rappelle qu'on est avant Internet, hein. On est presque avant les portables, donc ça nous dit aussi quelque chose de la société d'avant Internet et d'avant les réseaux sociaux.
Oui.
Hein, où ça cancane bien aussi.
Oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, Lolo Ferrari, c'est un peu la Kim Kardashian ou la Loana de la fin du 20e siècle. Elle aimante les regards, les conversations, les moqueries, les mauvaises blagues. Et surtout, elle montre aussi que même avant la télé-réalité, il y avait une fascination pour les bimbos. C'est le côté, en fait, un peu trash des années 90. Et on voit qu'il n'a pas fallu attendre la télé-réalité pour que s'expriment les excès du voyeurisme. Mais c'est comme au début de la télé-réalité, personne ou presque ne prend le phénomène au sérieux et peut tenter de le décrypter.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Yann Bouchèze, merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lolo Ferrari, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.